Honoré de Balzac. Illusion perdue. Trois mois se passèrent en expérience. David couchait à la papeterie. Il observait les effets des diverses compositions de sa pâte. Tantôt, il attribuait son insuccès au mélange du chiffon et de ses matières, et il faisait une cuvée entièrement composée de ses ingrédients. Tantôt, il essayait de coller une cuvée entièrement composée de chiffon, et, poursuivant son œuvre avec une persévérance admirable, et sous les yeux du grand Cointet, de qui le pauvre homme ne se défiait plus, il alla, de matière homogène en matière homogène, jusqu'à ce qu'il eût épuisé la série de ses ingrédients combinés avec toutes les différentes colles. Pendant les 6 premiers mois de l'année 1823, David Séchard vécut dans la papeterie avec Kolb, si ce fut vivre que de négliger sa nourriture, son vêtement et sa personne. Il se battit si désespérément avec les difficultés que c'eût été, pour d'autres hommes que les Cointet, un spectacle sublime, car aucune pensée d'intérêt ne préoccupait ce hardi lutteur. Il y eut un moment où il ne désira rien que la victoire. Il épiait, avec une sagacité merveilleuse, les effets si bizarres des substances transformées par l'homme en produits à sa convenance, où la nature est en quelque sorte domptée dans ses résistances secrètes, et il en déduisit de belles lois d'industrie, en observant qu'on ne pouvait obtenir ces sortes de créations qu'en obéissant aux rapports ultérieurs des choses, à ce qu'il appela la seconde nature des substances. Enfin, il arriva, vers le mois d'août, à obtenir un papier collé en cuve absolument semblable à celui que l'industrie fabrique en ce moment et qui s'emploie comme papier d'épreuve dans les imprimeries, mais dont les sortes n'ont aucune uniformité, dont le collage n'est même pas toujours certain. Ce résultat, si beau en 1823, eu égard à l'état de la papeterie, avait coûté 10 000 francs, et David espérait résoudre les dernières difficultés du problème. Mais il se répandit alors, dans Angoulême et dans Loumeau, de singuliers bruits. David Séchard ruinait les frères Cointet. Après avoir dévoré 30 000 francs en expérience, il obtenait enfin, disait-on, de très mauvais papiers. Les autres fabricants, effrayés, s'en tenaient à leurs anciens procédés, et, jaloux des Cointet, ils répandaient le bruit de la ruine prochaine de cette ambitieuse maison. Le grand Cointet, lui, faisait venir les machines à fabriquer le papier continu, tout en laissant croire que ces machines étaient nécessaires aux expériences de David Séchard. Mais le jésuite mêlait à sa pâte les ingrédients indiqués par Séchard, en le poussant toujours à ne s'occuper que du collage en cuve, et il expédiait à Métivier des milliers de rames de papier à journal. Au mois de septembre, le grand Cointet prit David Séchard à part, et, en apprenant de lui qu'il méditait une triomphante expérience, il le dissuada de continuer cette lutte. « Mon cher David, allez à Marsac voir votre femme et vous reposez de vos fatigues. Nous ne voulons pas nous ruiner, dit-il amicalement. Ce que vous regardez comme un grand triomphe n'est encore qu'un point de départ. Nous attendrons maintenant avant de nous livrer à de nouvelles expériences. Soyez juste, voyez les résultats. Nous ne sommes pas seulement papetiers, nous sommes imprimeurs, banquiers, et l'on dit que vous nous ruinez. » David Séchard fit un geste d'une naïveté sublime pour protester de sa bonne foi. « Ce n'est pas 50 000 francs de jetés dans la Charente qui nous ruineront, » dit le grand Cointet en répondant au geste de David. « Mais nous ne voulons pas être obligés, à cause des calomnies qui courent sur notre compte, de payer tout comptant. Nous serions forcés d'arrêter nos opérations. Nous voilà dans les termes de notre acte. Il faut y réfléchir de part et d'autre. » « Il a raison, » se dit David, qui, plongé dans ses expériences en grand, n'avait pas pris garde au mouvement de la fabrique. Et il revint à Marsac, où, depuis 6 mois, il allait voir Ève tous les samedis soirs et la quittait le mardi matin. Bien conseillé par le vieux Séchard, Ève avait acheté, précisément en avant des vignes de son beau-père, une maison appelée la Verberie, accompagnée de 3 arpents de jardin et d'un clos de vigne enclavé dans le vignoble du vieillard. Elle vivait avec sa mère et Marion très économiquement, car elle devait 5 000 francs restant à payer sur le prix de cette charmante propriété, la plus jolie de Marsac. La maison, entre cour et jardin, était bâtie en tuffeau blanc, couverte en ardoise et ornée de sculptures que la facilité de tailler le tuffeau permet de prodiguer sans trop de frais. Le joli mobilier venu d'Angoulême paraissait encore plus joli à la campagne, où personne ne déployait alors dans ces pays le moindre luxe. Devant la façade du côté du jardin, il y avait une rangée de grenadiers, d'orangers et de plantes rares que le précédent propriétaire, un vieux général, mort de la main de M. Marron, cultivait lui-même. Ce fut sous un oranger, au moment où David jouait avec sa femme et son petit Lucien devant son père, que l'huissier de Mansle apporta lui-même une assignation des frères Cointet à leur associé pour constituer le tribunal arbitral devant lequel, au terme de leur acte de société, devait se porter leur contestation. Les frères Cointet demandaient la restitution des 6 000 francs et la propriété du brevet, ainsi que les futurs contingents de son exploitation, comme indemnité des exorbitantes dépenses faites par eux sans aucun résultat.
« On dit que tu les ruines, » dit le vigneron à son fils. « Eh bien, voilà la seule chose que tu aies faite qui me soit agréable. »
Le lendemain, Ève et David étaient à 9 heures dans l'antichambre de M. Petitclos, devenu le défenseur de la veuve, le tuteur de l'orphelin, et dont les conseils leur parurent les seuls à suivre. Le magistrat reçut à merveille ses anciens clients et voulut absolument que M. et Mme Séchard lui fissent le plaisir de déjeuner avec lui. « Les Cointet vous réclament 6 000 francs, » dit-il en souriant. « Que devez-vous encore sur le prix de la Verberie ?»«
5 000 francs ?
Mais j'en ai 2 000, monsieur, » répondit Ève.
« Gardez vos 2 000 francs, » répondit Petit Clos.
« Voyons, 5 000. Il vous faut encore 10 000 francs pour vous bien installer là-bas.
Eh bien, dans 2 heures, les Cointet vous apporteront 15 000 francs. »
Ève fit un geste de surprise. « Contre votre renonciation à tous les bénéfices de l'acte de société que vous dissoudrez à l'amiable, » dit le magistrat. « Cela vous va-t-il ?
Et ce sera bien légalement à nous ? » dit Ève.
« Bien légalement, » dit le magistrat en souriant. « Les Cointet vous ont fait assez de chagrin. Je veux mettre un terme à leurs prétentions. Écoutez, aujourd'hui, je suis magistrat. Je vous dois la vérité. Eh bien, les Cointet vous jouent en ce moment, mais vous êtes entre leurs mains. Vous pourriez gagner le procès qu'ils vous intentent,
en acceptant la guerre. Voulez-vous être encore, au bout de 10 ans, à plaider?
On multipliera les expertises et les arbitrages, et vous serez soumis aux chances des avis les plus contradictoires.
« Eh !» dit-il en souriant, « je ne vous vois point d'avoué pour vous défendre ici. Tenez, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès.
Tout arrangement qui nous donnera la tranquillité me sera bon, » dit David.
« Paul !» cria Petit Claud à son domestique. « Allez chercher M. Segaud, mon successeur. Pendant que nous déjeunerons, il ira voir les Cointet, » dit-il à ses anciens clients, « et dans quelques heures, vous partirez pour Marsac, ruiné, mais tranquille. Avec 10 000 francs, vous vous ferez encore 500 francs de rente, et dans votre jolie petite propriété, vous vivrez heureux. »
Au bout de 2 heures, comme Petit Claud l'avait dit, Maître Segaud revint avec des actes en bonne forme signés des Cointet et avec 15 billets de 1 000 francs.
« Nous te devons beaucoup, » dit Séchard à Petit Claud.
« Mais je viens de vous ruiner, » répondit Petit Claud à ses anciens clients étonnés. « Je vous ai ruiné, je vous le répète. Vous le verrez avec le temps. Mais je vous connais. Vous préférez votre ruine à une fortune que vous auriez peut-être trop tard.
Nous ne sommes pas intéressés, monsieur. Nous vous remercions de nous avoir donné les moyens du bonheur, » dit Madame Ève. « Et vous nous en trouverez toujours reconnaissants. »«
Mon Dieu !»«
Ne me bénissez pas, » dit Petit Claud. « Vous me donnez des remords. Mais je crois avoir aujourd'hui tout réparé. Si je suis devenu magistrat, c'est grâce à vous. Et si quelqu'un doit être reconnaissant, c'est moi. Adieu !»
En 1829, au mois de mars, le vieux Séchard mourut, laissant environ 200 000 francs de biens au soleil, qui, réunis à la verberie, en firent une magnifique propriété très bien régie par Kolb depuis 2 ans. Avec le temps, l'Alsacien changea d'opinion sur le compte du père Séchard, qui, de son côté, prit l'Alsacien en affection en le trouvant, comme lui, sans aucune notion des lettres ni de l'écriture, et facile à griser. L'ancien ours apprit à l'ancien cuirassier à gérer le vignoble et à en vendre les produits. Il le forma dans la pensée de laisser un homme de tête à ses enfants. Car, dans ses derniers jours, ses craintes furent grandes et puériles sur le sort de ses biens. Il avait pris Courtois, le meunier, pour son confident.
« Vous verrez, lui disait-il, comme tout ira chez mes enfants quand je serai dans le trou. Oh, mon Dieu, leur avenir me fait trembler !»
David et sa femme trouvèrent près de 100 000 écus en or chez leur père. La voie publique, comme toujours, grossit tellement le trésor du vieux Séchard qu'on l'évaluait à 1 000 000 dans tout le département de la Charente. Ève et David eurent à peu près 30 000 francs de rente, en joignant à cette succession leur petite fortune, car ils attendirent quelque temps pour faire l'emploi de leurs fonds et purent les placer sur l'état à la Révolution de juillet. Après 1830 seulement, le département de la Charente et David Séchard surent à quoi s'en tenir sur la fortune du grand Cointet. Riche de plusieurs millions, nommé député, le grand Cointet est pair de France et sera, dit-on, ministre du commerce dans la prochaine combinaison. En 1837, il a épousé la fille d'un des hommes d'État les plus influents de la dynastie, Mademoiselle Popinot, fille de M. Anselme Popinot, député de Paris, maire d'un arrondissement.
la découverte de David Séchard a passé dans la fabrication française comme la nourriture dans un grand corps. Grâce à l'introduction de matières autres que le chiffon, la France peut fabriquer le papier à meilleur marché qu'en aucun pays de l'Europe. Mais le papier de Hollande, selon la prévision de David Séchard, n'existe plus. Tôt ou tard, il faudra sans doute ériger une manufacture royale de papier comme on a créé les Gobelins, Sèvres, la Savonnerie et l'Imprimerie royale, qui jusqu'à présent ont surmonté les coups que leur ont portés de vandales bourgeois. David Séchard, aimé par sa femme, est père de deux enfants, et il a eu le bon goût de ne jamais parler de ses tentatives. Ève a eu l'esprit de le faire renoncer à l'état d'inventeur. Il cultive les lettres par délassement, mais il mène la vie heureuse et paresseuse du propriétaire faisant valoir. Après avoir dit adieu sans retour à la gloire, il ne saurait avoir d'ambition. Il s'est rangé dans la classe des rêveurs et des collectionneurs. Il s'adonne à l'entomologie et recherche les transformations, jusqu'à présent si secrètes, des insectes que la science ne connaît que dans leur dernier état. Tout le monde a entendu parler des succès de Petit Clot comme procureur général. Il est le rival du fameux Vinet de Provins, et son ambition est de devenir premier président de la cour royale de Poitiers. Cérizet, condamné à 3 ans de prison pour délit politique en 1827, fut obligé par le successeur de Petit Clot de vendre son imprimerie d'Angoulême. Il a fait beaucoup parler de lui, car il fut un des enfants perdus du Parti libéral. À la Révolution de Juillet, il fut nommé sous-préfet et ne put rester plus de 2 mois dans sa sous-préfecture. Après avoir été gérant d'un journal dynastique, il contracta dans la presse des habitudes de luxe. Ses besoins renaissants l'ont conduit à devenir prête-nom dans une affaire de mine en commandite, dont les faits et gestes, le prospectus et les dividendes anticipés, lui ont mérité une condamnation à 2 ans de prison en police correctionnelle. Il a fait paraître une justification dans laquelle il attribue ce résultat à des animosités politiques. Il se dit persécuté par les Républicains. 1835-1843.